Chaïm Musicant nous a rejoint dans les studios. Bonsoir Chaïm.
Bonsoir Bernard.
Chaïm, vous êtes auteur, écrivain, vous avez dirigé le CRIF pendant de longues années, vous êtes directeur général du CRIF pendant combien de temps? 20 ans?
Une vingtaine d'années.
20
oui.
ans, hein. Vous avez connu vraiment donc des années qui ont marqué l'histoire, la venue d'Yasser Arafat à Paris, les négociations pour Karl May d'Auschwitz, est-ce que je sais moi la mort d'Yitzhak Rabin, ça fait vraiment les accords de paix d'Oslo, l'arrivée des Juifs russes, bon bref, toute une... Pourquoi je dis ça? Parce que c'est toute une partie de notre histoire que d'ailleurs il fait bon entendre parler aujourd'hui où vraiment l'avenir des Juifs de France est un peu remis en question, chacun se demande si on va continuer la vie qu'on avait nous dans notre communauté. Et par exemple, le dernier ouvrage dont vous êtes l'auteur, c'est Jean-Pierre Bloch. Jean-Pierre Bloch, c'est le fondateur historique de la LICRA.
Le deuxième président.
Le deuxième président, c'est qui le premier?
Bernard Lecache.
Ah oui, bien sûr. Donc, c'est en même temps le président. C'est monsieur le président, président mythique de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, mais... C'est un personnage historique qui a rejoint De Gaulle durant la Seconde Guerre mondiale, l'un des premiers résistants. Bah tiens, commençons par ça, et après, il a connu Mitterrand, il a connu Chirac, évidemment, etc. On va voir ça avec vous, et si vous voulez, à travers Jean-Pierre Bloch, que beaucoup ne connaissent pas, parmi les plus jeunes, c'est tout un pan de notre histoire que vous nous racontez dans ce livre, qui s'appelle tout simplement Jean-Pierre Bloch, de tous les combats, c'est paru aux éditions Glyph. Alors déjà, moi par exemple, je me souviens quand j'avais rencontré Jean-Pierre Bloch il y a des années de ça, il m'avait raconté sa propre rencontre avec le général de Gaulle, parce que quand le général de Gaulle fait son appel pour que les gens viennent le rejoindre autour de lui, lui il saute dans un petit bateau et il va à Londres. Et d'ailleurs après il a participé au premier parachutage pour la résistance sur la France, lui, Jean-Pierre Bloch. Et De Gaulle lui a dit, plus tard, quand moi j'ai fait mon appel, je ne pensais pas que ce serait des Juifs qui viendraient. Il lui a dit, la synagogue m'a envoyé deux ou trois fois plus de gens que l'Église. Il était étonné de voir que les premiers à arriver, c'est les Juifs. En fait.
Oui, écoutez, parce que tout à fait naturellement, des gens comme Jean-Pierre Bloch se considéraient à la fois comme des patriotes, qui aimaient leur pays et puis qui ont toujours revendiqué leur identité juive. Alors, en ce qui concerne le général de Gaulle, leur première rencontre, puisque vous en parlez, quand Pierre Bloch arrive à Londres, eh bien, il ne sait pas comment contacter de Gaulle et il voit dans la rue un autre juif, Pierre Mendès-France, qui est arrivé. Pierre Mendès-France, qui...
Dans la rue, comme ça.
Oui, oui, qui, lui, est pilote... vous savez, il est chef d'escadrille de la France libre. Il aide à organiser ce rendez-vous avec le général de Gaulle. Et le général de Gaulle, donc, salue Pierre Bloch, qui était un député du Front populaire. Et puis l'entretien se passe. Et Pierre Bloch est étonné que le général de Gaulle ne lui propose rien. Et ça se termine par « je vais vous inviter à déjeuner bientôt ». Et Pierre Bloch se dit « bon, il m'a dit ça comme ça ». Effectivement, il l'invite à déjeuner et il lui confie à Londres la responsabilité du service politique du contre-espionnage de la France libre. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y avait toute une série de juifs. Le chef de cabinet du général de Gaulle était juif. Il y a bien sûr... la grande figure René Cassin, qui était au général, qui était à côté, il y avait Joseph Kessel, etc., etc. Écoutez, tout à fait naturellement, il faut pas oublier que tout simplement, il s'agissait de combattre le nazisme antisémite qui voulait tuer les Juifs, et que donc tout à fait naturellement, tous ceux qui ont pu, et quelqu'un comme Pierre Bloch,
il y avait Romain Gary, non?
Oui, bien sûr, il y avait Romain Gary, et donc tout le monde, vous savez. Ils se fréquentaient tous, ils se connaissaient tous, ils étaient pas tous dans le même hôtel, mais enfin, il y avait des lieux de rassemblement où, j'ai envie de vous dire qu'il y avait un petit peu le kibbutz juif en plein Londres où tous les juifs se rencontraient.
Il aurait pensé quoi aujourd'hui en voyant que dans une université, on a dit non, on ne veut pas la LICRA, vous êtes trop proche d'Israël, ça. C'était, en lisant votre livre, ce qu'on se dit, c'est que c'est quand même... C'est, toutes ces années bonheur de la communauté juive de France, presque en vous lisant, on a de la nostalgie, on dit, Oui, mais maintenant, peut-être que ça ne se passerait plus comme ça. Par exemple, vous racontez toutes les années Badinter, toutes les années Marcel Bustin-Blanchet, le créateur de Publicis. Comment, attendez, je vais regarder, j'ai pris quelques notes ici. Comment Marcel, il rencontre Marcel Bustin-Blanchet, c'était tout un groupe d'ailleurs, hein, y compris il y avait Simone Veil, je crois. Elisabeth Badinter, qui est la fille de Marcel Bustin-Blanchet, qui épouse ensuite Robert Badinter, donc tous des personnages mythiques de la communauté juive de France. Est-ce que toute cette vie juive française vous semble un peu condamnée aujourd'hui ?
Mais écoutez, Bernard, vous avez raison de dire que la situation en 2025 n'est pas celle que Pierre Bloch
a connue.
Mais en même temps, Pierre Bloch a connu, je dirais, la chose la plus horrible, la guerre.
Ah oui.
La guerre.
Et les années déportées. Il a été arrêté ?
Il a été arrêté trois fois, une fois par les Allemands, une deuxième fois par la police française, la troisième fois par Franco. Et alors, juste une anecdote pour vous dire comment ça se passe. Lors de sa deuxième évasion, il arrive à prendre un train à Bordeaux. Et il se trouve que ça va être l'anniversaire, que ses voisins dans le compartiment ont entendu qu'il s'est passé quelque chose à Paris. Et ce quelque chose qui s'est passé à Paris, c'est la rafle du Valdif. Et quelqu'un qui est de Paris raconte que un enfant qui avait réussi à être protégé par la concierge a vu sa maman qu'on enlevait et descendu quand même. Et Pierre Bloch a cette pensée lorsqu'il entend tous ces récits, alors que lui vient de s'échapper. Hein, il vient de s'échapper, il dit « Moi, je suis juif et je le resterai toute ma vie. »
Tiens, par exemple, parlez-nous de Johnny Hallyday, d'Alain Delon.
Alors écoutez, tout d'abord, Johnny Hallyday, pendant 2 ans, a habité chez Pierre Bloch. Parce que son fils, Pierre Bloch, un jour amène Johnny, qui était très déprimé.
Parce qu'il faut comprendre un truc, Pierre Bloch, c'est le nom de famille.
Oui, en fait...
Alors le fils s'appelle Jean-Pierre, mais bon, le nom de famille, Pierre Bloch, ça nous donne Jean-Pierre Pierre Bloch.
En fait,
et Claude Pierre Bloch.
En fait, si vous voulez, pour les auditeurs de Radio Shalom, le véritable nom de Pierre Bloch, c'est Pierre Bloch. C'est-à-dire Bloch, c'est son nom de famille, et Pierre, c'est son prénom. Alors pourquoi Pierre Bloch ?
Ouais.
Parce que il se présente aux élections dans l'Aisne en 1932, et face à lui, il y a un juif, mais un juif qui est croix de feu, qui est facho, qui s'appelle Edmond Bloch. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, il décide d'accrocher son prénom Pierre Bloch.
Pour qu'on dise, voilà, je vote pour Pierre Bloch.
Voilà, et il s'invente un prénom.
Parce que Croix de Feu, attention, c'est des Maurassiens, c'est des gens.
Voilà,
mais d'ailleurs, violemment antisémite. Le gars, il est juif et violemment antisémite.
Mais il y en a eu, vous savez, bon, vous connaissez le fait que pas très loin de Radio Shalom, pendant des années, les Croix de Feu étaient présents à la synagogue de la Victoire pour une cérémonie qui était organisée par le rabbin Kaplan. Enfin, si vous voulez, il y a des tas de choses, si vous voulez, comme ça. Et donc. Pierre Bloch, ce qui s'est passé, c'est que c'est pour ça qu'il a pris ce nom. Alors, je reviens à Johnny.
Ouais.
Donc, Johnny, qui est déprimé parce que une copine l'a plaqué, il est déprimé. Et pendant 2 ans, il va vivre chez Pierre Bloch. Et ce qu'il voulait, c'était que chaque soir, quand il n'était pas en tournée, que... Jean-Pierre Bloch et sa femme Gabi aussi, qui a été une résistante, lui racontent tout ce qui s'était passé, et il s'est engagé. Et lorsque je dis qu'il s'est engagé, c'est qu'à la fois il est rentré dans la LICA, qui devait devenir dans la LICRA, où il est devenu un militant avec Sylvie Vartan et leur fils David Hallyday.
Militant de la LICRA, s'appelait la LICA, mais bon.
Oui, qui est devenu la LICRA en 79. Et alors, pour revenir à Alain Delon, c'est que Johnny, au moment de la guerre des séjours, comme tant d'autres, voulait partir en Israël pour être volontaire. Et bon, il avait donné un concert juste avant pour Israël, il avait signé une pétition dont je me souviens, parce qu'elle était en dernière page de François, et il n'a pas pu partir, puisque la guerre des séjours, par définition, a duré moins d'une semaine. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Alain Delon, qui lui aussi était un pro-israélien féroce, eh bien, ils se sont retrouvés au 143 boulevard de Wagram. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le 143 boulevard de Wagram ? C'était à l'époque l'adresse de l'ambassade d'Israël, et il était au balcon pour prononcer avec Alain Delon des discours de soutien à Israël.
Les temps ont bien changé.
Oui, oui.
Hein ? Et d'ailleurs, moi, je me souviens aussi de l'émergence du MRAP, qui était un mouvement anti-raciste et anti-israélien, et il y avait quand même malgré tout une forme de dialogue entre les organisations, mais c'était pas ce qu'on voit aujourd'hui avec les gens qui appellent au boycott. Par exemple, on parlait de deux artistes, appellent au boycott d'Amir simplement parce qu'il est israélien, il a rien fait, il a jamais été à Gaza, il a rien à voir avec l'histoire. Mais l'israélien, il faut pas qu'il fasse de festival. On est loin, hein, les combats de la LICRA, c'est... À côté, c'est des pique-niques, à côté de ce qu'on vit aujourd'hui.
Oui, oui.
Sauf la guerre, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ai tort de pas l'avoir mentionné tout à l'heure, mais mettons la guerre, si on peut dire. Mettons les années que nous, on a connues. Moi, j'ai pas connu la guerre. Les combats antiracistes de la LICRA et de SOS Racisme, c'est un pique-nique à côté de ce qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, vous savez, Bernard, on fait partie de la même génération, et on a cru très naïvement qu'avec Auschwitz, la création de l'État d'Israël, l'antisémitisme, c'était à mettre dans les musées. On s'est trompé.
Ouais, au moins en Europe, hein. On croyait que c'était fini au moins en Europe. Eh bien, Chaim Isikant, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage. C'est le dernier, il y en a vraiment de très nombreux. Donc là, c'est le dernier. Il s'appelle Jean-Pierre Bloch, de tous les combats, paru aux éditions Glive. Je rappelle que, d'ailleurs, vous avez obtenu un prix, qui est le prix de l'universalisme du festival Joséphine Baker. Et ce livre retrace l'histoire de Jean-Pierre Bloch. Je vous remercie d'être venu nous voir en studio pour nous parler de tout un pan de notre histoire et donc de ce beau personnage qui était Jean-Pierre Bloch. Merci à vous, bonsoir.
Merci Bernard.